Conte de l'Estonie, les trois jumeaux. Il y avait une fois un brave paysan marié avec une brave femme. Tous deux vivaient en bon accord, se pesant à faire le bien, très estimés et très aimés de leurs voisins. Ils semblaient fort heureux. Ils éprouvaient cependant une grande peine dont nulle fortune ne pouvait les consoler. Mariés depuis 10 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Un soir, l'honnête paysan était sorti, et sa femme, seule au logis, s'abandonnait à de tristes réflexions et pleurait en songeant aux joies maternelles dont elle était privée. Et tout à coup, elle sent à ses pieds un léger mouvement, comme le frétillement d'un jeune chat. Elle regarde et voit un petit nain, un de ces petits êtres magiques qui habitent dans les montagnes des grottes d'or et de cristal, et quelquefois s'attachent à la famille de l'homme et se plaisent à le protéger et à l'entretenir. « Ne pleure plus, » dit-il à la bonne paysanne, « tes vœux secrets seront exaucés. Tu seras mère plus heureusement que tu ne peux l'imaginer. Et quand ma prédiction sera accomplie, je reviendrai. » À ces mots, il disparut, comme il s'était échappé par le trou de la serrure ou perdu dans une fente du parquet. Environ un an après, la brave femme, qui désirait si ardemment le bonheur d'être mère, mit au monde en quelques instants 3 beaux garçons parfaitement constitués. Le nain, comme il l'avait annoncé, revint près d'elle et lui dit « Tes fils feront une fortune considérable et te donneront grande joie jusqu'à ta mort. » Et en parlant ainsi, il grimpait comme un chat au bord de la couchette où reposaient les 3 jumeaux, et tirant de sa petite poche un peloton rouge, il attacha un fil au pied d'un des garçons, aux mains du second et aux tempes du troisième. Puis il dit à la mère, « La veille du jour où ces enfants seront baptisés, n'oublie pas d'enlever et de brûler ce fil. Tu en recueilleras la cendre dans une cuillère, et après y avoir mêlé quelques gouttes de lait, tu la déposeras sur le corps de chacun de tes garçons. Ainsi sera complétée mon œuvre, et sur la place où j'ai noué ce fil, chacun d'eux aura une force extraordinaire. Adieu, tu ne me reverras plus. » Les 3 garçons grandirent rapidement, et à mesure qu'ils grandissaient, chacun d'eux se signalait par une faculté extraordinaire. En raison de ce don magique, l'un d'eux fut nommé œil perçant, le second main habile et le troisième pied léger. Au premier temps de leur jeunesse, ils prirent de concert avec leurs parents la résolution de s'en aller en pays étranger dans l'espoir d'y faire un fructueux emploi de leur force et de leur adresse. Ils partirent par 3 différents chemins, promettant de se rejoindre au bout de 3 années dans la maison paternelle. Pied léger se dirigea vers l'Orient et fit en peu de temps un long trajet, car il traversait avec une rapidité extrême et sans se fatiguer les plaines et les montagnes. Il entra au service d'un roi qui possédait une quantité de chevaux dont plusieurs étaient si alertes et si impétueux que personne ne pouvait les arrêter. Mais Pied Léger courait encore plus vite que les coursiers les plus agiles. En un instant, il maîtrisa les chevaux rebelles et les ramena au milieu du troupeau. La tâche que 50 bergers réunis n'avaient pas pu accomplir, il la faisait lui seul, aisément. Le roi, qui était juste, lui donnait le salaire de 50 bergers, et de plus il lui faisait de nombreux présents. Un jour, à un banquet auquel il avait invité un grand nombre de princes et de seigneurs, il se mit à parler avec enthousiasme de l'habileté avec laquelle son jeune pâtre rassemblait et gouvernait son troupeau. Un des convives lui dit que ce berger n'avait pas si grand-peine à réunir des animaux qui connaissaient sa voix, mais qui voudraient le voir poursuivre des mines animaux d'une autre contrée. L'essai fut fait. On lâcha dans une vaste plaine des chevaux étrangers, choisis parmi les plus fougueux. Piéléger non seulement les suivait sans peine, mais les devançait dans leur course désordonnée. Il fut récompensé de cette nouvelle épreuve par les éloges et les présents des princes et des seigneurs, qui d'abord doutaient de son étonnante faculté. Son nom devint célèbre dans la région de l'Orient. Dès qu'un souverain désirait expédier en toute hâte un messager, il le confiait à Piéléger et le payait généreusement. Tous ceux qui l'employaient ainsi auraient bien voulu le garder. Mais le jour étant venu où il devait partir pour rejoindre ses frères, il se mit en route avec 20 chevaux chargés des trésors qu'il avait amassés. Le second frère, main agile, qui s'était dirigé vers le sud, trouva partout de la besogne tant qu'il en voulait. Sans appartenir à aucune corporation, sans avoir appris aucun métier, il faussait en tout ce qu'il entreprenait, il réussissait partout. Il pouvait être tour à tour, avec le même succès, tailleur, cordonnier, menuisier, orfèvre. Et en un instant, sa tâche était achevée dans sa perfection. Un jour, il arriva dans une capitale où tout était en grande agitation. La guerre était déclarée. Il fallait envoyer au plus vite des troupes contre un ennemi puissant. Et on n'avait pour ces troupes pas assez d'armes, de vêtements et de chaussures. Tous les ouvriers travaillaient nuit et jour, sans relâche. Mais ils n'étaient pas assez nombreux, et ils avaient tant de choses à faire. Pour achever leurs tâches, quelques chefs d'atelier demandaient 5 mois, d'autres 6, d'autres plus encore. Main habile offrit au roi de tout finir en 3 mois. « Et quelle garantie ? » répliqua le roi. « Me donneras-tu pour que je me fie à ta personne ?»« Oh, je n'ai ni or ni argent, » reprit Main habile. « Mais ma vie est à votre disposition. Et demain matin, si le roi le permet, je lui apporterai un échantillon de mon industrie. » Le lendemain, en effet, il montra un vêtement qu'il venait de coudre, et les tailleurs, après l'avoir rigoureusement examiné, ne purent y découvrir le moindre défaut. Main habile prit alors toute la besogne divisée en une quantité d'ateliers. On pensait qu'il allait appeler à lui en leur donnant d'énormes salaire tous les ouvriers de la ville, mais non. Seul, il se mit à l'œuvre, sachant de quel pouvoir il était doué, et 2 mois avant le délai prescrit, son œuvre était pleinement et admirablement accomplie. Le roi, ravi, le combla de présents. Il voulait l'emmener avec lui à la guerre, disant que celui qui faisait de tels prodiges avec des instruments de travail devait en faire également avec l'épée. Mais en le remerciant, Main habile répondit qu'il devait retourner chez ses parents, et grâce à son travail, il y portait une belle somme d'argent. Le troisième frère, Œil perçant, qui s'était dirigé vers les régions de l'Ouest, erra longtemps avant de trouver un emploi convenable. Avec son adresse à la chasse, il pourvoyait aisément à ses besoins journaliers, mais ne pouvait s'enrichir. Un jour, il arriva dans une ville dont le souverain était dans une grande affliction par un étrange événement. Ce roi avait dans son jardin un arbre merveilleux qui portait des pommes d'or très grosses et d'une valeur considérable. Ces pommes étaient soigneusement comptées et des sentinelles les gardaient constamment. Et malgré cette surveillance, en 3 mois et demi, 3 de ces pommiers avaient été violés et l'on n'avait pu voir le voleur et l'on ne trouvait de lui aucune trace. L'œil perçant se dit après avoir entendu ce récit, à moins que le filou ne soit un être tout à fait incorporel, je le verrai. Et après en avoir conféré avec le roi, il se rendit à l'insu des sentinelles dans le jardin et monta au sommet d'un arbre dont il pouvait voir sans être vu. En même temps, les gardiens formaient autour du pommier un cordon si serré que pas une souris n'aurait pu y pénétrer. Tout le jour, œil perçant fut aux aguets et ne remarqua pas la moindre tentative de larcin. Le soir, au coucher du soleil, un petit papillon jaune voltigea autour du pommier, puis se posa sur une branche où brillait un des globules d'or. Ce n'était assurément pas un frêle insecte qui pouvait enlever une de ces lourdes pommes. Le dernier rayon de soleil s'éteignait à l'horizon. L'ombre nocturne s'étendit sur la terre. Mais des lampes étaient allumées autour de l'arbre précieux et l'on ne distinguait pas la moindre apparence d'une tentative de rapt. Vers minuit, œil perçant, assis sur son arbre dès le matin, s'assoupit. Et quelques instants après, il se réveille, regarde. Le papillon a disparu, et avec lui a disparu aussi la pomme d'or près de laquelle il s'était posé. Le roi apprit avec fureur ce nouveau larcin. Il voulait punir rigoureusement les gardiens qui l'accusaient d'avoir manqué à leur devoir. Œil perçant n'osait révéler sa pensée, comprenant bien qu'on l'aurait cru fou s'il eût dit qu'il soupçonnait le papillon d'avoir emporté la pomme d'or. Mais il chercha dans la ville un homme qui connaissait les pratiques de la sorcellerie, et l'ayant découvert, il lui demanda s'il ne pourrait pas façonner un filet très léger en apparence et assez solide cependant pour résister à une forte pression. « Oui, répondit le magicien, c'est possible. » Il prit 3 araignées auxquelles il donna par ses sortilèges une puissance extraordinaire, les enferma et dit à œil perçant « Porte ces araignées où tu voudras, indique-leur l'endroit où tu veux qu'elles opèrent, elles feront une tâche que Mana lui-même, Mana le suprême enchanteur, ne pourrait briser. » Œil perçant s'en alla dans le jardin, comme la veille, à son poste. Comme la veille, il vit venir le papillon jaune. Alors, à l'aide d'une échelle, il porta doucement sa boîte magique sur l'arbre dont il voulait préserver de toute atteinte les fruits, et les 3 araignées, aussitôt, se mirent à l'œuvre et bientôt enlacèrent dans leur réseau le rapace insecte. Et à minuit, tout à coup, on entendit un grand bruit. À la place du papillon apparut un petit homme avec une barbe grise qui tenait une pomme dans la main et se débattait dans le filet, essayant vainement de le rompre. Au cri poussé par les grands gardes qui voulaient s'emparer du larron, le roi courut. « Voilà, dit œil perçant, notre homme prit comme je l'espérais. Maintenant nous pouvons dormir et demain matin nous l'interrogerons. » Le lendemain, le sorcier de la veille, œil perçant et les gardes se rendirent avec le roi près du filet où se débattait encore le captif. « Qui es-tu ? » lui demanda le sorcier. « Tu ne veux pas répondre ? Eh bien, nous allons voir. » « Qui es-tu ? » répéta-t-il en lui mettant un tison enflammé sous le menton. « Éloignez ce feu !» s'écria le petit homme en gémissant. « Et je répondrai à vos questions. »« Qui es-tu ? » « Je suis le valet de l'enchanteur Piricilla. » Le sorcier lui brûla la barbe avec le tison. « Grâce ! » s'écria-t-il, « je vais vous dire la vérité. Je suis le fils de Piricilla. » Puis enfin, une troisième interrogation, il dit « Je suis Piricilla lui-même. » Le sorcier, alors, son tison embrasé à la main, le somma de révéler l'endroit où il avait caché les pommes d'or. Et lorsqu'on les eut toutes retrouvées, le maudit enchanteur qui s'employait son pouvoir qu'à faire de mauvaises actions fut brûlé dans son réseau. Le roi, réjoui d'être rentré en possession de son trésor, fit des présents superbes à Hypersan. Il aurait voulu le garder à son service, mais le jeune voyageur voulait retourner à la maison maternelle. Dans leur aventureuse excursion, les trois frères avaient amassé une fortune avec laquelle ils pouvaient désormais vivre magnifiquement dans leur pays. Mais un jour, ils entendirent parler d'un roi du Nord qui promettait de donner sa fille en mariage à celui qui ferait toutes trois choses très difficiles que nul prétendant n'avaient encore pu faire, et ils résolurent d'essayer encore là leur force et leur habileté. En arrivant près de la capitale qui attirait une quantité de seigneurs, tous désireux d'épouser la belle princesse, Piéléger devança ses frères pour savoir quelles étaient les trois difficiles épreuves. Il apprit qu'il fallait conduire le matin au pâturage, garder tout le jour et ramener le soir un renne sauvage doué d'une telle force qui pouvait en quelque sorte parcourir le monde entier. Il fallait ensuite fermer la porte du château. Et dans la serrure de cette porte était une sorcière qui, avec une puissance irrésistible, saisissait par la main l'audacieux qui se hasardait à tirer le verrou et le serrait, le balançait rudement sur le mur, puis enfin le laissait tomber par terre à moitié mort. La troisième tâche n'était pas plus aisée. Un homme était debout au sommet d'une montagne, tenant par la queue une pomme entre ses dents. Il fallait, sans le blesser, atteindre cette pomme avec une flèche et la fendre en deux. Chacun des trois frères, avec sa faculté spéciale, pouvait bien faire une de ces trois choses, mais il fallait qu'elles fussent faites toutes les trois par un seul homme. Pour accomplir leur dessein, les ingénieux jumeaux eurent recours à la ruse. Ils se ressemblaient par la taille et la figure, de telle sorte qu'on ne les distinguait pas aisément l'un de l'autre. Ils se coupèrent la barbe et les cheveux de la même façon, et se virent faire un magnifique vêtement dont ils devaient successivement se parer. Les trois épreuves étant accomplies, un seul devait en avoir la récompense. Le sort désignerait celui d'entre eux qui aurait le bonheur d'épouser la princesse. Tout étant ainsi réglé, œil perçant et main habile restèrent cachés à quelque distance de la ville, tandis que Piéléger, avec son vêtement brodé d'or et parsemé de diamants, se présentait devant le roi comme un riche seigneur étranger et demandait à subir la première épreuve. « Demain, si vous le voulez, dit le roi, mais je vous engage à prendre un autre vêtement moins précieux, car le renne vous entraînera à travers les ronces et les marais. » « Qu'importe, répond le jeune prétendant, le prix de mes vêtements. » La princesse le regardait par le trou de la serrure et désirait son succès. Le lendemain, au lever du soleil, piégé, met au col de renne une forte corde dont il tient le bout. Et dès que la porte de l'écurie est ouverte, l'impétueux animal se précipite en dehors et court avec la rapidité du vent. Et tous les spectateurs admirent l'aisance avec laquelle le jeune étranger le suit. Mais lorsque le renne fut arrivé au-delà de toute habitation, dans une plaine déserte, Piéléger, voyant que personne ne pouvait le voir, et ne voulant pas inutilement se fatiguer, s'élança sur le dos de l'animal et se laissa ainsi tranquillement porter. Le renne, se sentant cette fois dompté, s'arrêta dans sa course et se mit à brouter l'herbe. Vers midi, il se coucha par terre et s'endormit. Piéléger s'endormit près de lui et le soir le ramena à l'étable. Jamais pareille chose n'avait été faite. Piéléger fut admiré, fêté, et eut l'honneur de souper à la table du roi. Puis il se retira, disant qu'il allait se reposer, mais il allait rejoindre ses frères pour leur raconter sa journée. Main habile endossa le lendemain le riche vêtement et s'en alla à la ville pour subir la seconde épreuve. Le roi, le prenant pour l'habile coureur de la veille, lui renouvelle ses compliments et lui dit à quel danger il s'exposait. En essayant de fermer le soir la porte ensorcelée, la princesse, qui le regardait par le trou de la serrure, et croyait aussi que c'était le même étranger qu'elle avait déjà vu, désirait son succès. Le rusé garçon se rendit chez un forgeron et se fit fabriquer une main de fer. Et le soir, quand tout dormait au château, il fit rougir cette main au feu. Ensuite, il monta sur une échelle pour atteindre le verrou qu'il devait tirer. Et lorsque la sorcière voulut le saisir, lui tendit le fer brûlant. Alors elle se retira en poussant un cri de douleur, et il acheva fort aisément sa besogne. Le lendemain, le roi, voyant la fameuse porte close, félicita vivement le jeune prétendant de ce nouveau succès et l'invita à dîner. Malhabile lui demanda à la suite la permission de se retirer pour se reposer, disait-il, de la tâche qu'il avait accomplie pendant la nuit et se préparer à sa dernière épreuve. En sortant du palais, il alla secrètement rejoindre ses frères. Le lendemain, œil perçant, revêtit les riches habits et se présenta au roi comme l'heureux triomphateur de la veille et de l'avant-veille. La princesse, en le voyant, se disait: Oh, puisse-t-il cette fois réussir encore dans son entreprise, oh, je serais contente de l'épouser. Au haut de la montagne était l'homme qui tenait par la queue une pomme entre ses dents. Œil perçant s'avance au milieu d'une foule de curieux, regarde le but placé et, à une si longue distance qu'on l'entrevoit à peine, ajuste son arc et la flèche part et la pomme est fendue en deux. Les spectateurs applaudissent avec enthousiasme à cette merveilleuse adresse. La princesse a des larmes de joie dans les yeux et le roi, ravi, veut célébrer les fiançailles immédiatement. Mais œil perçant ne peut oublier l'engagement qu'il a contracté. Il prie le roi de vouloir bien remettre l'heureuse cérémonie au lendemain et va rejoindre ses frères. Selon la convention fixée au commencement de leur aventure, c'est le sort qui doit décider lequel d'entre eux ajoutera à sa propre victoire celle des deux autres. Et c'est Œil de Persan qui, au tirage, gagne le royal mariage. Piéléger, main habile, le félicite avec une sincère affection de sa bonne fortune, l'embrassent cordialement et repartent pour leur pays, n'ayant plus d'autre idée d'aventure, ne songeant qu'à vivre en paix avec leur fortune près de leurs parents. Hubert Sang épousa la princesse, monta sur le trône après la mort de son beau-père et gouverna sagement le royaume.